Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Nous avons tous connu ces moments de confusion où l'on oublie le prénom d'une personne que l'on connaît par cœur, la capitale du Burundi que l'on a pourtant sur le bout de la langue, l'endroit où l'on a posé sa paire de lunettes, le nom de l'acteur principal de sa série préférée ou encore la date de naissance de son cher neveu. Bon anniversaire Benjamin, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Avec des sueurs froides à l'idée que nous puissions être frappés d'un Alzheimer précoce dans un monde de distraction permanente. Nous partageons ce matin des conseils pratiques pour retenir l'essentiel et oublier l'accessoire. Bref, devenir des passoires qui retiennent les pâtes et pas l'eau de cuisson. L'essentiel aujourd'hui, c'est de ne pas oublier le nom, le courage et l'humilité du caporal-chef Maxime Blasco, mort pour la France. Et puis, on se demandera également s'il existe des aliments qui nous permettent d'améliorer nos capacités de mémorisation. Nous attendons toutes vos questions, vos témoignages et vos conseils au 01 45 24 7000, sans oublier de nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Gwenaëlle Boulet.
Bonjour.
Tous les mercredis, vous nous proposez Ma vie de parent consacrée à l'éducation, à la parentalité, à la famille. Au menu cette semaine ?
Au menu cette semaine, une chronique 100% bisounours.
A tout à l'heure Gwenaëlle, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, à lire et BI, Grand Bien vous fasse.
Dis-moi juste... Comment ça s'est terminé hier, justement? Parce que moi, je... Ah non, je sais pas, j'ai un vide sanitaire, là. Une micro-perte de conscience. Comment? On a fini chez les pompiers?
Merde, qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est moi? Ah, j'avais envie de voir des pompiers! Ah, ben ça va. Quoi? J'ai chanté la bamba à poil sur la grande échelle? Oh non, mon Dieu, la honte, putain, quelle horreur, pourquoi j'ai fait ça? Oh, je connais même pas les paroles.
Petit trou de mémoire de Florence Forestier après une nuit bien arrosée. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS, praticienne à l'hôpital Rothschild. Vous avez publié chez Erol une journée dans le cerveau d'Anna et on peut lire tous les mois votre chronique dans le quotidien Le Monde. Bonjour Anne de Pomereux.
Bonjour.
Diplômée d'HEC, consultante, formatrice en entreprise, vous êtes professeure de mémoire et de méthodologie. Vous avez publié chez la Thès, Éloge de la passoire, sous-titré Mémoire, je retiens l'essentiel et j'oublie le reste. Alors vous étiez venu il y a quelques semaines pour partager des outils hein, pour améliorer notre attention. Quel est le lien entre l'attention et la mémoire, Sylvie Chocron?
Ben, en fait, l'attention prépare à la mémorisation. Donc à chaque fois que vous allez percevoir quelque chose avec attention, donc en vous focalisant dessus, non seulement vous améliorez la qualité de la perception, c'est comme un zoom ou comme un projecteur sur ce que vous regardez, mais en plus de ça, vous préparez la mémorisation, parce que si vous y faites attention, c'est que vous avez une motivation pour cette information. Et c'est la motivation qui va faire que ce que vous percevez, vous allez le retenir. Donc c'est extrêmement important.
Anne de Pomereux, plus on est distrait, moins on a de chances de bien mémoriser.
Oui, c'est à peu près ça. Pour moi, je parle pas mal en images. C'est un peu la porte d'entrée de la mémoire, l'attention. Donc il faut quand même franchir cette porte-là pour pouvoir accéder à la mémorisation.
Question de Laure qui nous demande si nos écrans, nos appareils connectés contribuent à nos trous de mémoire, à nos pertes de mémoire, Sylvie Chocron. Et si oui, pourquoi ?
Alors, oui, effectivement, ça contribue. D'abord parce que la plupart d'entre nous utilisent son téléphone comme une mémoire externe, comme un disque dur externe. Et donc, vous avez tous vu les gens regarder avec leur téléphone, prendre des photos pour mémoriser visuellement ce qu'ils voient plutôt que de le garder en mémoire. Et puis aussi, la plupart des gens se disent à quoi ça sert que je retienne, puisque c'est beaucoup plus efficace d'utiliser mon téléphone si j'ai besoin de rechercher un numéro de téléphone ou une capitale ou quoi que ce soit. Et donc, on est en train de déléguer notre mémoire à un outil qui est extérieur à nous. On a un prolongement de notre cerveau à l'extérieur de nous. Et effectivement, le risque, c'est que la mémoire, c'est une fonction qu'on peut perdre si on ne l'utilise pas. Et donc, effectivement, moins on va chercher des traces en mémoire, plus on va les oublier. Et donc oui, c'est l'ennemi de notre mémoire.
Anne de Pomereux.
Oui, tout à fait d'accord. Hein. C'est comme si on avait perdu le mode d'emploi de la mémoire. C'est pas que nos mémoires ne marchent pas, c'est qu'on les utilise peu. Donc à force de pas utiliser un outil, et la mémoire en fait devient moins fonctionnelle.
Vous dites une chose très importante, Anne de Pomereux. Trouver un poème sur Internet et l'apprendre par cœur, ce n'est pas du tout la même chose. Vous écrivez que la connaissance acquise consolide sa liberté intérieure.
Oui. Alors Alors ça, c'est en fait hyper important. Bon, qu'on retrouve un numéro de téléphone sur son portable, ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, qu'on se libère en fait, qu'on libère de la place dans notre mémoire sur des choses qui sont finalement assez accessoires. En revanche, ne pas apprendre des poèmes par cœur, c'est bien dommage, parce que les mots qui sont beaux et qui ont été écrits par des personnes qui dont c'est le métier et qui font ça très bien, ça va nous nourrir notre intériorité et donc nous construire de l'intérieur. Et le fait de regarder un poème, de lire vite fait et puis de l'oublier aussitôt, ça c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même nourriture intérieure. Et donc moi je milite. Si je pouvais militer pour quelque chose, en fait, ce serait pour remettre de l'apprentissage de poésie par cœur à l'école. Il y en a de moins en moins, et c'est bien dommage parce que j'ai eu moi des élèves de 80 ans qui sont venus essayer de renforcer leur mémoire dans des ateliers que je pratique, et j'étais très étonnée, mais je parlais d'une poésie dont on a complètement perdu de vue, qui s'appelle Le vase brisé de Sully Prudhomme. Et je dis ça, et aussitôt la dame de 80 ans, qui arrivait pas du tout à apprendre des listes nouvelles, ressort donc 60 ans ou 75 ans après la poésie par cœur.
Sylvie Chaucron.
Oui, alors je dirais même que c'est très important parce que souvent les enfants comprennent pas l'intérêt des poésies. Mais l'intérêt d'apprendre par cœur une poésie, c'est pas juste l'apprentissage par cœur, c'est qu'on apprend à apprendre. Et on essaye de trouver quelle est la meilleure stratégie pour chacun d'entre nous d'apprendre. Et puis l'autre chose très importante dans l'utilisation de la mémoire, c'est qu'on sait maintenant que apprendre c'est une chose, mais aller chercher en mémoire ce qu'on a appris, c'est ce qui va ancrer la trace en mémoire. Donc avant, on pensait qu'il fallait lire 10 fois un texte et qu'ensuite on le saurait. Maintenant, on sait qu'il vaut mieux le lire une fois, aller le chercher 10 fois dans sa mémoire plutôt que dans son téléphone. Et c'est ça qui va ancrer la trace en mémoire. Donc moi, je passe un petit bonjour à mon beau-père qui a 97 ans et qui se souvient encore de ses poésies d'enfance, simplement parce qu'il va les chercher régulièrement en mémoire. Donc c'est précieux d'apprendre, mais c'est précieux aussi d'aller chercher ce qu'on a appris.
Gonelle Boulay.
Moi, ce serait plutôt une question. C'est qu'est-ce qui fait qu'on a des... Par exemple, quand on voit bien quand on a des enfants, il y a une inégalité terrible dans l'apprentissage. On en a qui lisent une fois, deux fois, connaissent directement la poésie par cœur. D'autres pour qui, effectivement, ça va être des mises en place de mécanismes. Comment on explique ça?
Et pour compléter, Gonelle, pourquoi est-ce que votre beau-père de 97 ans se souvient admirablement des poésies qu'il a apprises? Et moi, je suis totalement incapable de me souvenir des poèmes appris en CE1 ou CE2.
Alors... Je réponds à tous les deux dans l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre les enfants? Parce qu'effectivement, il y a des enfants qui, de manière automatique, vont mettre en place la meilleure stratégie pour apprendre. C'est-à-dire que ça se fait, on appelle ça la mémorisation sans effort. Et puis, pour certains, cette technique qui va leur permettre d'apprendre, elle se met pas en place de manière automatique, il va falloir aller chercher de manière volontaire, consciente, comment faire pour apprendre. Une fois qu'on aura trouvé une stratégie, ça va marcher, mais ceux qui ont des difficultés, du coup, à le faire spontanément, il faut les aider et il faut leur proposer plusieurs stratégies différentes. Pour certains, c'est la lecture, pour d'autres, c'est d'entendre, de vous entendre, vous, réciter la poésie, pour d'autres, c'est d'associer des images, pour d'autres, c'est d'associer cette poésie il y a des choses qu'ils connaissent déjà, de mettre de la musique dessus, enfin il y a plein de stratégies. Et puis pour répondre à Alice sur pourquoi il ne se souvient pas de ses poésies, je pense que ça tient peut-être d'une part à la façon dont elles ont été apprises, et d'autre part au fait d'aller les chercher. Si vous n'allez pas chercher une trace en mémoire, elle va disparaître. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est quand vous avez une relation très forte avec quelqu'un, vous l'appelez 3 fois par jour, vous connaissez son numéro par cœur, et puis malheureusement là, vous vous séparez, et vous n'allez pas retrouver ce numéro que vous connaissiez par cœur.
Et pourtant, je me souviens des camarades du CE1 et du CE2, Séverine Bénion, Jérôme Palarols, je m'en souviens.
Parce que vous y avez repensé peut-être.
Anne de Pomereux.
Oui, en fait, vous vous souvenez pas parce que vous n'allez pas chercher, ça c'est certain. Et si vous vous souvenez de vos copains de CM1, CE2, c'est parce que vous aviez de l'affect. Oui. Et que l'affect, l'affection, les émotions ancrent le souvenir.
Ça c'est important ça.
C'est hyper important, ouais. Alors moi je voulais ajouter quelque chose, parce que il y a d'une part apprendre des poésies par cœur, où là il faut effectivement tous les mots. Et puis apprendre des cours par cœur, où la stratégie d'apprendre mot à mot est complètement... inefficace en fait.
Et on va y revenir tout à l'heure, hein, sur l'apprentissage des cours, qu'on soit en primaire, au collège ou au lycée. Alors quand on oublie ses clés ou le nom d'une personne que l'on connaît pourtant par cœur, quel type de mémoire est affecté, Sylvie Chaucron?
Alors, quand c'est le nom d'une personne, c'est votre mémoire épisodique. Hein, ce sont pas des connaissances que vous avez acquises à l'école, qui sont, elles, plutôt votre mémoire sémantique ou didactique, vraiment les connaissances. Et l'oubli, il faut pas s'en inquiéter outre mesure. C'est un petit peu normal d'oublier. D'une part, parce qu'il y a, une réaction d'interférence. Au fur et à mesure où on apprend des choses similaires, d'autres prénoms, ben, il y a un risque qu'il y ait une interférence entre deux femmes ou deux hommes dont vous allez confondre les prénoms. Et puis, c'est ce qu'on disait avant, si on n'est pas allé chercher cette trace, par exemple, pendant le confinement, on a peu vu les gens. Oui. Ensuite, quand on les voit, on sait qu'on les connaît, on reconnaît leur visage, mais
ils sont masqués en plus.
Voilà. Et on ne retrouve pas forcément leur nom immédiatement.
Et pourquoi il est plus difficile d'oublier de conduire ou de lacer ses chaussures plutôt que de se souvenir de l'anniversaire d'une amie?
Parce que conduire ou lacer ses chaussures, c'est la mémoire qu'on appelle procédurale, c'est la mémoire des procédures. En fait, les procédures, ce sont quasiment des automatismes. Une fois qu'on a appris à conduire, la conduite devient automatique. D'ailleurs, il a dû vous arriver à tous de conduire en pilotage automatique. Vous n'avez plus besoin d'y penser et c'est parce que c'est automatique que ça résiste mieux à l'oubli.
Alors, Anne de Pomereux, vous faites l'éloge de l'oubli hein, dans votre livre. Pas de mémoire sans capacité d'oubli. Vous le martelez, n'ayons pas peur d'oublier.
Absolument. Et je voudrais réhabiliter l'oubli. Il y a un professeur qui s'appelle professeur Francis Eustache qui milite beaucoup pour qu'on ait moins peur d'oublier, et qui dit, et je le rejoins tout à fait, en fait, une bonne mémoire, il y a de l'oubli. Et en fait, l'oubli, c'est pas, on a tendance à penser, oui, c'est le revers de la médaille de la mémoire. Non, c'est une capacité noble de la mémoire. Et en fait, il n'y a pas de bonne mémoire sans capacité d'oubli. La preuve, il y a eu, dans l'histoire de récente, on a étudié des personnes qui n'avaient pas cette capacité d'oubli, il y a eu des personnages qui ont été très suivis par les scientifiques, et ces personnes-là ne pouvaient rien apprendre, en fait. Donc, ils pouvaient retenir, mais ils pouvaient pas faire de lien entre les choses qu'ils retiennent.
D'où la métaphore de la passoire.
D'où la métaphore de la passoire. Donc, l'enjeu, si vous voulez, c'est de comprendre mieux comment fonctionne sa mémoire, de pas avoir peur qu'elle fonctionne différemment de celle des autres, et de savoir, en fait, mieux utiliser sa passoire, c'est-à-dire, on agrandit les trous si on veut pas retenir, et puis savoir les rétrécir si on veut retenir. Voilà, c'est ça mon enjeu, en tout cas.
Sylvie Chocron.
Oui, alors, l'oubli, c'est très important, parce qu'on sait qu'il y a des sujets dont on dit qu'ils sont hypermnésiques, donc ils retiennent tout ce qu'ils perçoivent, hein, de manière automatique, qu'ils le veuillent ou non. Et il y a eu des cas illustres décrits dans la littérature, où ces sujets, on peut pas dire ces patients, ces personnes expliquaient que pour oublier, ils étaient obligés de s'imaginer, écrire leurs souvenirs et les jeter dans la cheminée, ou les écrire sur un tableau et les effacer activement, parce qu'effectivement, ne pas pouvoir oublier, c'est extrêmement compliqué parce que vous gardez en mémoire des choses qui ne sont pas faites pour rester en mémoire.
Bonjour Marie-Jo.
Bonjour à vous tous.
Vous appelez de Sainte, quelle est votre question?
D'abord, je vous remercie pour votre émission extrêmement intéressante.
Merci.
Et ma question, c'est en fait, depuis de nombreuses années, je viens d'avoir 74 ans, mais c'est quelque chose qui, on voit sa mémoire quand même qui ralentit au fur des années. Mais j'ai eu toujours l'impression que c'était que on avait accumulé aussi tellement de choses au fur et à mesure, le cerveau avait retenu beaucoup de choses, et que finalement, si c'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué depuis longtemps, il doit aller chercher un peu comme on va dans le grenier, fouiller dans les malles, chercher un objet, et donc ça lui prend du temps, il sait ce qu'il veut. Mais il lui faut du temps, d'abord pour trouver l'objet et ensuite peut-être retracer son chemin si on a neurones ou qui sont un peu endommagés ou l'énergie passe plus lentement que quand on avait 30 ans. Et est-ce que c'est vraiment une chose qui m'a interrogée depuis longtemps et j'aimerais savoir si il y a de la vérité là-dedans.
Anne de Pomereux.
Absolument, c'est tout à fait ça. La mémoire évolue avec l'âge et elle devient moins efficace en fait. Et donc il y a plus de difficultés à accéder aux souvenirs. Le chemin est encombré, il faut aller chercher. Et parfois c'est frustrant parce qu'on sait que c'est là, c'est le mot au bout de la langue par exemple.
Oui.
Et ça revient pas. Alors en fait, ce qui fait que ça va revenir souvent, c'est qu'on arrête de chercher, c'est très mystérieux. Et là, ça revient tout seul, mais pas au moment où on voudrait, évidemment.
Sylvie Chocron.
Oui, avant, on pensait qu'on avait chaque neurone contenait des souvenirs, qu'on avait comme ça des cellules qui contenaient les souvenirs. Maintenant, on parle des chemins de la mémoire, et c'est exactement ce que vous dites. En fait, on considère considère que fabriquer un souvenir, c'est fabriquer un nouveau chemin, de nouvelles connexions entre des neurones. Et donc, plus on va aller chercher ce souvenir en mémoire, plus le chemin qu'on emprunte est une autoroute bien goudronnée, à quatre voies, très rapide. Et moins on va chercher le souvenir, plus c'est un chemin comme si vous deviez défricher un champ de maïs, et plus le chemin est encombré. Et donc, effectivement, c'est exactement l'image qu'on donne maintenant. Et quand on regarde l'activité cérébrale, c'est exactement l'impression que ça donne.
Quel conseil donner à Marie-Jo, Anne de Pomereux, pour qu'elle puisse accéder plus facilement à ses souvenirs, être moins sujet aux trous de mémoire?
Déjà, ne pas s'inquiéter de ce phénomène, qui est tout à fait normal. C'est pas parce que c'est plus difficile qu'il y aura une maladie d'Alzheimer, par exemple. Ça, vraiment se rassurer là-dessus. Et puis, je dirais, évoquer à plusieurs. Moi, je pense que le collectif, là, est vachement important. Et le fait de partager des souvenirs, par exemple, ça les renforce. Et c'est plus facile, quelque part, parce qu'on peut avoir des indices qui sont donnés par les autres personnes.
Oui, je pense qu'on peut aussi vous conseiller, Marie-Jo, peut-être d'évoquer tout le contexte des souvenirs. Les odeurs qu'il y avait, l'endroit où vous étiez, les personnes qui étaient là. Et puis, on le disait, on l'a à peine amorcé tout à l'heure. C'est vrai que pour la mémoire, il y a aussi le fait de lâcher prise. Et donc, quelque part, on va lâcher prise et cette recherche automatique du souvenir, elle va se mettre en place parce que votre cerveau, il a compris que vous cherchiez un souvenir. Il va continuer le travail, même sans pression. Donc, si vous lui laissez un peu de temps, il va aller chercher le souvenir.
Gwenaëlle Boulay.
Oui, et aussi la question, je crois, du projet, c'est-à-dire la façon dont on a utilisé les souvenirs. C'est-à-dire, exemple très simple, pour aller chercher sa voiture, c'est pas la même chose de garer sa voiture et de regarder le numéro que de s'imaginer en train d'essayer de la retrouver. Idem pour les blagues, on en parle pour les enfants. Il y a les fameux farceurs qui retiennent toutes les blagues et ceux qui les retiennent pas. En fait, souvent, c'est quand on est en posture passive de recevoir une information ou quand on se met dans une posture active de se dire, tiens, à quoi va pouvoir me servir cette information? Et généralement, on arrive beaucoup mieux à retenir ce dont on sait qu'on va pouvoir se servir.
Exactement, et vous avez tout à fait raison, parce que c'est un conseil qu'on donne aux enfants aussi. Apprendre pour soi, c'est différent d'apprendre pour expliquer à quelqu'un. Et quelquefois, on conseille à un enfant d'apprendre dans le but d'aller expliquer à un enfant qui n'a pas compris. Et le coût de l'apprentissage n'est pas du tout le même.
Merci beaucoup, Marie-Jo, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Tiens, écoutons ce cher François Morel qui s'exprime sur le trou de mémoire.
Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien.
Ça m'est arrivé. Et à un moment donné, j'ai eu un trou de mémoire parce que je pensais carrément à autre chose que ce que je disais.
Comment on fait dans ces cas-là?
Je me suis dit, oh, je dois avoir le texte dans les coulisses, donc je suis carrément sorti. Et c'est l'inspecteur, en plus, où j'étais vraiment tout seul. Donc, quand je pars du plateau, il n'y a plus rien qui se passe du tout. Et puis, j'ai cherché, et je ne le retrouvais pas du tout. Je ne l'avais pas mis, j'avais une confiance totale. Donc, je suis revenu. J'ai redit le texte un peu plus haut, je suis remonté un petit peu, et puis c'est revenu à ce moment-là. C'est comme si on mettait de temps en temps, quand on sait trop un spectacle, c'est comme si on mettait le pilote automatique, et que ça joue à travers soi, et qu'on n'a plus besoin finalement. On a l'impression qu'on a... Alors que c'est pas les jours où on est le mieux, hein. Enfin, il faut jamais jouer en pilote automatique, au contraire, il faut toujours pouvoir décider des choses.
Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose. Oui, monsieur.
Extrait de ces pas sorciers sur France 3. François Morel, que vous retrouvez tous les vendredis à 8h55. François Morel qui nous dit que son trou de mémoire est lié à son pilotage automatique, Sylvie Chocron.
Mais oui, effectivement, parce que il était tellement en pilotage automatique qu'il n'y avait plus d'attention, presque plus de conscience. Et du coup, dans ces moments-là, on peut perdre le fil de ce qu'on est en train de dire et oublier véritablement la suite de ce qu'on devrait dire. Donc, il faut garder un petit peu d'attention. C'est pour ça que quand on apprend quelque chose, il faut l'apprendre, mais pas trop, pour pouvoir quand même y penser au moment où on va le réévoquer.
Sur notre page Facebook, Lynn nous demande quelles sont justement les techniques qu'utilisent les comédiens de théâtre pour mémoriser de longues tirades, Anne de Pomereux.
Alors, les comédiens, d'abord c'est leur métier. Oui. Donc ils ont un enjeu fort et ils travaillent beaucoup déjà, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'un comédien, ça travaille énormément. Alors ça ne se voit pas quand ils sont sur scène. Et je crois qu'il y a quelque chose de très... commun à tous les comédiens, c'est le fait de se retrouver dans l'espace où ils vont jouer. Et c'est toujours le lieu qui va renforcer la mémorisation. Le lieu et le fait de jouer avec les autres. Voilà. Ça, et puis ensuite, ça c'est ce que me dit ma fille, j'ai une fille comédienne de théâtre, donc on en a beaucoup discuté. Et elle me dit, en fait, on apprend avec ses mots à soi, ce qu'on appelle le sous-texte. Et c'est le sous-texte qui va donner la justesse de la situation, et donc du jeu. Et ensuite, on met petit à petit les mots du texte. Et on s'en fait pas trop s'il y a des petites erreurs de mots. Parce que ce qui compte, ce qui va compter plus encore, c'est la justesse de la situation. Voilà, donc c'est un peu tous ces conseils-là.
Oui, je crois que les comédiens disent très bien que quand ils déclament, par exemple, c'est plus déclamé, ce sont leurs mots à eux. C'est comme s'ils parlaient spontanément. Donc effectivement, je crois qu'ils finissent par s'approprier tellement le texte qu'au moment où ils le disent, c'est comme s'ils le disaient spontanément. Mais l'autre conseil qu'on pourrait donner à des apprentis comédiens, c'est que si on veut vraiment justement connaître sur le bout des doigts un texte et se l'approprier, il faut être capable de le restituer dans n'importe quelle situation. Sous la douche, en marchant, à l'arrêt du bus, à table. Et c'est cette automatisation de la recherche, pas de l'évocation, hein, mais le fait d'automatiser ce chemin pour aller chercher la trace qui permet d'être très efficient.
Voilà un excellent conseil. Allez, dans un instant, nous vous donnerons d'autres outils très concrets pour améliorer votre mémoire. En attendant, on écoute. Ah, c'est bon ça, Oasis, whatever. Oasis, whatever. Sylvie Chocron, j'ai plein de souvenirs qui ressurgissent là, c'est normal?
Mais oui, c'est tout à fait normal parce que la musique, c'est vraiment un renforçateur de la mémoire. Et d'ailleurs, on peut conseiller aux gens qui ont des choses à apprendre, des cours par exemple, d'écouter une musique pendant qu'ils apprennent, sous réserve bien sûr que ça ne les gêne pas d'un point de vue attentionnel, parce qu'ensuite, il suffira d'écouter la musique pour se souvenir de ce qu'ils ont appris.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
10h31 et ce matin des outils pratiques pour améliorer sa mémoire en compagnie de la professeure de mémoire et de méthodologie Anne de Pomereux et avec Sylvie Chocron, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000.
Pourquoi certains souvenirs résistent-ils à l'épreuve du temps et pas d'autres ? Chaque souvenir, je l'ai dit, est un maillage, un itinéraire bien particulier qui unit entre eux des dizaines de milliers de neurones. Cet itinéraire est tracé par des signaux électriques. En effet, dans le cerveau, les informations circulent sous forme de signaux électriques le long des neurones, les cellules du cerveau, et sous forme chimique entre les neurones, au niveau de ce qu'on appelle les synapses. Pour qu'un épisode soit gardé en mémoire, il faut absolument qu'il y ait une trace de cet itinéraire. Deux facteurs entrent en jeu. D'abord, la charge émotionnelle. Plus elle est importante, plus le signal est fort, plus l'empreinte qu'il laisse est profonde. Ensuite, la répétition. La répétition consciente, d'abord, quand on évoque l'événement, ce qui s'est produit à maintes reprises avec les attentats de 2001. Et ensuite, la répétition inconsciente, la nuit, pendant le sommeil, car à ce moment-là, les réseaux de neurones qui ont été activés pendant l'événement sont réactivés. À chaque passage, le signal va creuser son sillon. Et parallèlement, de nouvelles connexions apparaissent, de nouvelles synapses, comme si le cerveau renforçait l'armature du souvenir.
Extrait de C'est pas sorcier du cultissime Jeannie Gourmaud sur France 3. Anne de Pomereux, la mémoire agit donc comme une valse à trois temps. On procède toujours de la même manière, en trois étapes. On encode l'information, c'est-à-dire qu'on l'enregistre. Ensuite, on la stocke. Ensuite, on la récupère. Et donc, on peut assister à des difficultés de mémorisation à chacune de ces trois étapes.
Tout à fait. Ces trois étapes, c'est pas moi qui les donne.
Bien sûr.
Ce sont les scientifiques qui montrent que la mémoire agit selon ces, enfin, la mémorisation agit selon ces trois étapes. L'encodage, c'est le fait que l'information qui est dehors va rentrer dedans, en gros. Et pour ça, il y a un processus où il faut transformer l'information, en quelque sorte, pour que ça rentre. Ensuite, c'est stocké plus ou moins bien. Et dans les maladies de la mémoire, justement, c'est l'endroit de stockage qui pose problème. Donc c'est au niveau des hippocampes, ça vous allez mieux l'expliquer que moi. Et donc c'est comme si on marchait sur du sable, c'est-à-dire qu'on peut encore encoder, mais on peut pas stocker. Et puis la récupération, on sait qu'on sait, mais on a paumé la clé du coffre ou on sait plus où c'est. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les fameux difficultés d'accéder au contenu alors qu'ils sont bien là. Et ça, bon, avec la réactivation, c'est ce qui marche le mieux. Et puis quand il y a le trou de mémoire, lâcher puis revenir dessus, etc.
Sylvie Chocron.
Oui, alors effectivement, il y a ces trois étapes. Et avant, on pensait que pour avoir une bonne mémoire, il fallait améliorer l'encodage, donc vraiment enregistrer les informations avec de l'attention, et puis bien écrite, avec des couleurs. C'est pour ça que les étudiants font des fiches. Ensuite, il fallait améliorer le stockage, donc bien ranger l'information, la ranger à côté d'informations qui ont du sens, qui ont un lien, et puis ensuite être capable d'aller chercher l'information. Et maintenant, ce qu'on a appris ces dernières années, c'est que l'étape de récupération, d'aller chercher la trace, finalement, elle améliore aussi l'encodage et le stockage, parce qu'à chaque fois qu'on va chercher la trace, on refait tout le circuit. Et c'est pour ça que dans l'enregistrement, on entendait, donc Jamie, dire c'est comme si on creusait un sillon de plus en plus profond. Parce qu'à chaque fois qu'on recherche la trace, c'est comme si on la réapprenait. C'est pour ça que c'est tellement efficace.
Tout à fait. Et c'est pour ça que dans l'apprentissage scolaire, en fait, on ne peut retenir que ce à quoi on réfléchit. Si on veut simplifier, donc si on réfléchit pas aux questions qu'on aborde toute la journée, c'est clair qu'on va pas les mémoriser. Et on peut y réfléchir autrement qu'en lisant le cours. Et c'est ça qui va faire qu'on va s'en souvenir mieux. Donc en fait, lire son cours et le relire, c'est quelque chose qui n'est pas du tout efficace comme stratégie. C'est peut-être la stratégie la moins efficace.
Gonel Boulet.
Non, mais c'est vrai que pendant la pause, je me désespérais de ma piètre mémoire. Et voilà, et je me demandais si, voilà, s'il y avait quand même des choses pour la muscler, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie passoire avec des très gros trous.
Et JM nous écrit, je ne suis pas de l'avis de ceux qui disent que la mémoire, ça s'entraîne. J'en ai hélas très peu, et cela m'a handicapé lors de mes études, et certainement ensuite dans mon travail, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Par contre, j'ai fait une seule fois en plein Paris un parcours que je ne connaissais pas, et j'étais capable de le refaire sans me tromper 6 mois plus tard. Allez comprendre.
Et oui, alors c'est ce qui arrive aussi à certains patients. Donc moi, je me souviens d'un patient qui avait été hospitalisé à la Pitié, qui avait un très très gros trouble de la mémoire. Il pouvait même plus redonner son nom ou son adresse. Et pourtant, il s'est enfui de l'hôpital. Il a réussi à repartir chez lui dans le 20e. Tout seul, parce qu'il avait retrouvé le chemin justement, sans pour autant avoir de mémoire consciente. Mais peut-être qu'on pourrait dire un mot de la différence entre la mémoire et l'apprentissage. Donc on croyait toujours que c'était la même chose, et puis on a rencontré des patients qui sont totalement amnésiques, mais qui sont néanmoins capables d'apprendre. Alors, je vous donne un exemple. Il y avait cette fameuse patiente qui a été décrite il y a très très longtemps, à qui son neurologue disait bonjour tous les matins avec une aiguille dans la main. Et donc, il la piquait à chaque fois qu'il lui serrait la main.
Sympa.
Et au bout de quelques jours, la patiente ne voulait plus lui serrer la main. Elle avait appris qu'il allait se passer quelque chose. Et pourtant, quand il lui demandait « Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce qu'on s'est déjà vu ? Est-ce qu'on s'est déjà dit bonjour ?» Elle disait « Non, non, je vous ai jamais vu de ma vie. » Et donc, apprendre, ce n'est pas la même chose qu'avoir une bonne mémoire consciente, d'accord, qu'on maîtrise. On peut tout à fait apprendre des choses sans même en avoir conscience, sans même se rendre compte qu'on est en train d'apprendre. Et ça, c'est miraculeux quand les enfants vous disent bah « Non, j'ai une mauvaise mémoire, j'arrive pas à prendre mon cours, etc. » On va pouvoir peut-être leur raconter d'une certaine façon ou leur faire vivre ce qu'ils doivent apprendre. Et du coup, ils vont être capables de s'en souvenir.
Alors, venons-en à quelques outils concrets pour améliorer sa mémoire. Anne de Pomereux, les analogies peuvent sacrément nous aider. C'est un outil très puissant pour favoriser la mémorisation et la compréhension.
Oui, parce qu'en fait, la mémoire va très bien retenir les images, ce qu'on appelle l'image mentale. C'est une représentation imagée de ce qu'on veut apprendre. Et plus ce qu'on doit retenir est, si vous voulez, abstrait et compliqué, moins bien on va le retenir. Donc l'idée, là, c'est de se mettre des hameçons, en quelque sorte, qui sont des hameçons d'images pour pouvoir retenir les contenus.
Comment vous avez, par exemple, retenu les rois de France ? Par exemple, vous l'expliquez dans votre livre.
Oui. Ça, c'est autre chose. En fait, pour vous raconter...
Vous n'utilisez pas les analogies ou les images mentales ?
C'est pas tout à fait la même chose. L'histoire des rois de France, c'est que moi, j'adore l'histoire. Et en fait, je retenais strictement rien, jamais. Parce que j'avais pas de ce que j'appelle le porte-manteau, c'est-à-dire d'éléments stables, solides, sur lesquels l'information nouvelle peut s'accrocher.
C'est quoi les porte-manteaux mentaux ?
Ce que j'appelle un porte-manteau, c'est en fait une manière d'accrocher. En fait, on apprend peu, et sur ce peu vient s'accrocher la nouveauté. S'il n'y a pas de point d'accroche, ce qui rentre de nouveau dans la mémoire va s'évacuer très vite, parce qu'il n'y a pas ce point d'accroche.
Exemple.
Donc, en histoire, par exemple, un bon point d'accroche, c'est une chronologie. Pourquoi ? Parce que l'histoire, c'est quand même, ça suit une chronologie. Et d'ailleurs, ce qui fonctionne bien quand on parle d'histoire, c'est de raconter des histoires avec des chronologies et des personnages. Ce qui marche beaucoup moins bien, c'est la manière dont on nous enseigne l'histoire à l'école, c'est-à-dire qu'on fait des problématiques sur des sujets très précis, en oubliant complètement de donner le contexte.
Alors comment vous avez retenu ces rois de France grâce à ces porte-manteaux ?
Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, en fait, est-ce que ça va changer ma capacité de retenir un peu mieux l'histoire si je mets en place la chronologie de façon très solide ? C'est ça que j'ai fait. Et je me dis, je vais essayer. Donc j'ai appris, je me suis dit, je vais apprendre la chronologie. Et pour apprendre la chronologie, donc là j'ai utilisé une méthode qui est d'installer ces dates et ces personnages par le palais de la mémoire et des images mentales.
Le fameux palais mental.
Oui,
expliquez-nous
ça.
En quelques mots le fonctionnement de ce palais mental.
En quelques mots, l'idée c'est on transforme ce qu'on veut encoder par des images et ensuite il faut bien pouvoir retrouver toutes les images, c'est la fameuse récupération. Et depuis toujours, puisqu'on a été dans la tradition orale avant de rentrer dans l'histoire de la tradition écrite, en fait, tous les hommes partout dans le monde ont utilisé les lieux pour stocker l'information. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On a besoin du contexte pour pouvoir se souvenir. Et donc, l'idée, c'est de... j'encode mon nom de roi de France, et puis je le mets dans un lieu. Et puis
dans
je
la lui... cuisine.
Voilà, exactement. Dans... Et puis celui d'après,
dans la salle
je
à
le
manger.
Mets... Voilà. Et puis surtout, je les range astucieusement. Ouais. Par exemple, je mets ensemble les rois du même siècle. Comme ça, je sais que au XVIe siècle, il y a ceux-là, parce que je les ai rangés dans
donc
la
vous
cuisine.
Mettez Louis XIV, Louis XV, Louis XVI dans le salon, et vous mettez Napoléon Ier dans la
cave. Je progresse, en fait. La chronologie, le chemin de mémoire suit les siècles, les années. Évidemment, il y a une logique. Donc, c'est par la logique du cheminement dans le temps, on va retrouver les rois, effectivement.
Sylvie Chocron.
Oui, alors, c'est vrai que le palais mental, c'est très utilisé, très conseillé, très à la mode en ce moment. C'est revenu à la mode parce que c'est une technique très ancienne, mais il y a des gens pour qui ça ne marche pas du tout. Et donc, du coup, pour ces gens-là, peut-être que cette visualisation spatiale, c'est pas du tout efficace, et il leur faut plutôt un lien sémantique, quelque chose qui ait du sens. On raconte une histoire. Ou il faut peut-être aller dans un château de telle époque, et regarder les tableaux et s'imaginer, par exemple, les personnes à cette époque-là. Donc, en fait, moi, je pense que ce qui est très important, et qu'on dit peut-être pas assez souvent, c'est que chaque mémoire est différente, c'est normal, chaque cerveau est différent, chaque histoire est différente, notre façon d'apprendre est différente, ce qui nous intéresse est différent. Et donc, certes, il y a des méthodes pour améliorer sa mémoire, mais la meilleure méthode, c'est quand même d'essayer de comprendre comment fonctionne notre propre mémoire et comment l'utiliser. Et de ce point de vue-là, c'est pas qu'on n'est pas tous égaux, c'est qu'on est tous différents, juste.
Tiens, écoutons les conseils d'un champion de la mémoire qui nous délivre quelques conseils.
Le 7 de carreau.
Le 7 de carreau.
Il vous reste le 8 de carreau.
Le 8 de carreau.
Alors, il y a une technique qui existe depuis très longtemps qui consiste à remplacer des informations abstraites par des images. Donc, on appelle ça des tables de rappel. On peut s'en servir pour des chiffres et des nombres, mais aussi pour des cartes à jouer. Dans mon cas, à moi, toutes les cartes à jouer sont traduites par des personnes. Et en plus, elles sont catégorisées. C'est que toutes les cartes de cœur, ce sont des personnes de ma famille. Toutes les cartes de pique, ce sont des héros de série. Toutes les cartes de trèfle, ce sont des copains. Et toutes les cartes de carreau, ce sont des copines. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on me présente les cartes une par une, mentalement, je les rencontre. Je les rencontre et je les mets dans une action. Parce que chaque personne a sa spécificité. Ah, par exemple, le roi de pique, c'est Superman. Quand je croise Superman en roi de pique, j'imagine tout simplement qu'il vole. Tout simplement, il vole. Donc le problème des cartes à jouer, c'est que nous avons quatre couleurs et chaque carte revient quatre fois.
D'accord.
Et là, l'idée, c'est de ne pas mélanger les pinceaux. Donc chaque carte dans ma table à moi est unique.
Est-ce que dans la vie quotidienne, ça peut nous servir, ce genre de moyens, finalement, ce qu'on appelle des moyens mnémotechniques?
Oui, alors moi, ce que je fais pour les cartes à jouer, ça ne me sert que pour les cartes à jouer. Donc si je veux devenir bon dans la poésie, là, il va falloir que je trouve des techniques pour mémoriser une poésie. Et ce ne sera pas la même que celle-là.
Extrait de C'est pas sorcienne de Pomereux, ça confirme ce que vous venez de dire.
Oui, c'est exactement la même chose. Alors après, on peut s'interroger sur l'intérêt d'apprendre un jeu de cartes par cœur.
Mais c'est un joueur de cartes professionnel, voilà.
Oui, ou un mentaliste, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, ça c'est. Mais en fait, si ça marche pour ça, ça marche pour tout. C'est ça que ça veut dire aussi.
Une chose très importante en ce mercredi, comment être plus efficace pour retenir un cours. Donnez-nous quelques conseils pour apprendre efficacement et durablement. Alors, vous écrivez une chose, Anne de Pomereux, très intéressante, qui peut paraître contre-intuitive. Je vous cite, il faut accepter de ne pas tout apprendre, il faut mettre son énergie à retenir solidement les 20% qui suffiront à apprendre le reste.
Absolument. Donc ça, parce que les enfants, les jeunes, passent des heures à lire et relire et essayer de retenir les mots du prof ou du cours. Et ça marche pas, en fait.
Conseil concret,
qu'est-ce que je vais pas apprendre? Commence par te poser cette question. Qu'est-ce que j'ai pas besoin d'apprendre et qui va s'accrocher tout seul quand j'aurai appris le minimum? Donc, qu'est-ce que j'apprends pas? Vous voyez, on fait l'inverse, en fait.
Il faut savoir situer l'information clé fondamentale.
Exactement.
Repérer l'information secondaire.
Exactement.
Et voir où sont les détails qui nous serviront peut-être.
Et traduire avec ses mots, surtout. Donc, il faut que l'information me dise quelque chose à moi, que je puisse la récupérer comme ça. Donc, ça passe beaucoup par... Il faut que je comprenne de quoi on parle. Et pas que... Voilà, je vous donne un exemple tout bête sur un cours de seconde sur la fin dans le monde. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de jargon dans la manière dont les cours sont écrits. Donc là, il y avait dans le un des titres, l'agriculture est duale. Ok, ça veut dire quoi ce truc-là? Ça veut dire quoi? Elle est duale. Donc si je comprends pas ce que ça veut dire...
Je peux pas l'assimiler.
Je vais l'apprendre comme ça, puis je vais l'oublier aussitôt, parce que ça me dira rien, en fait. voyez, donc il faut d'abord passer par la compréhension qui est de quoi ça me parle, pourquoi on me raconte ça, quel est le chemin de secours, d'où il part, où il arrive, qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce que je dois retenir de plus important.
Il faut se poser six questions, qui, bien quoi, sûr, où, ouais. Comment, pourquoi.
Oui, exactement. Et puis, comme le disait tout à l'heure Sylvie, c'est en fait, je retiendrai ce que je suis capable de transmettre.
De restituer.
De ça, transmettre à quelqu'un. La connaissance, elle va grandir par le don, par la transmission. Donc si je suis capable d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas été en cours de quoi parler ce cours, ben je sais que je le sais.
Et en résumé, il faut passer plus de temps à comprendre qu'à apprendre.
Ben bien sûr, il faut être actif. Tant qu'on est passif, on ne retient pas.
Oui, alors effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais que ce qui est très important au moment où on apprend un cours, c'est de savoir ce qu'on connaît déjà dans ce cours. Parce que des fois, les enfants réapprennent des choses qu'ils connaissent déjà, il n'y a pas d'intérêt. Ensuite, il faut se poser des questions que le prof pourrait poser le jour de l'interrogation. Qu'est-ce qu'il va me demander pour donner du sens, du coup, à ce cours et à ce qu'il va falloir rappeler? Et puis, si on a vraiment réussi à apprendre son cours, on est aussi capable de le raconter de la fin au début. Il faut sortir de l'apprentissage de la première ligne à la dernière ligne et être capable d'aller piocher au milieu, à la fin, au début. Il faut se détacher du support.
Anne de Pomereux.
Oui. Je souscris 100%.
C'est parfait. Ouais. Et bien alors, à 10h46, ouais. Il est temps de retrouver la chronique Ma vie de parent de Gonelle Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas?
Salut!
Merde!
Gonelle Boulay, cette semaine, vous avez décidé de nous proposer une chronique très bisounours.
Et oui, exactement. Parce que bon, cette fin de mois de septembre qui laisse tous les parents sur les rotules, renvoyant aux oubliettes les bienfaits des vacances d'été, je me suis dit que c'était le moment de se faire une petite piqûre de mignonitude et de revenir au sens profond de notre parentalité.
Rien que ça.
Oui, en toute humilité. Non, parce que quand on parle parentalité, on parle beaucoup fatigue, énervement, charge mentale, colère, burn-out, nuit moisie ou course perpétuelle contre le temps. En fait, on râle énormément. À croire que cette folle aventure ne se résume plus qu'à une série de contraintes cette déception. C'est un peu triste, non?
Oui, vu comme ça, en effet.
Oui, mais ces millions de parents qui, pour la plupart dans notre pays occidentaux, ont choisi de l'être, ne serait-il donc qu'un vaste ensemble de masochistes, prêts à tout pour se gâcher la vie? Tous ces gens dont je fais partie se sont-ils juste dit un jour « Tiens, la vie est trop cool, et si je faisais des enfants pour me complexifier un peu tout ça? Et si, au lieu de me coucher tranquillou le soir pour me réveiller en pleine forme le matin, je m'imposais quelques mois, voire quelques années de nuits hachées menues? Ou encore, tiens, mes week-ends sont vraiment trop chouettes, et si je passais plutôt un quart d'entre eux à tenter d'éradiquer les colonies de poux sur des petites têtes chevelues ?» Non, bien sûr, personne ne s'est dit ça un jour, pour conclure sa réflexion par un « bingo, allez chérie, procréons ». Non, généralement, en dehors du fait que nous sommes une espèce animale qui a pour instinct profond de se reproduire pour assurer sa survie, les images que l'on a en tête et qui nous décident à faire des enfants sont plutôt des images du type « Oh, un bébé, c'est quand même trop mignon. En plus, il te ressemble, ce sera trop chou. Puis t'imagines quand il va grandir, ça va être drôle. »
Alors, je sens que c'est précisément là que votre chronique, Gonelle, va verser du côté du monde des bisounours.
Tout à fait, Ali. Vous sentez bien les choses. Et je suis au passage très fière de vous faire parler des bisounours à l'antenne de France Inter, car c'est pas tous les jours. Donc en effet, c'est bien parce que les enfants nous apportent une dose inimaginable d'amour et de tendresse que nous continuons à en faire. Parce qu'une fois entrés dans notre vie, rien n'a d'égal un câlin avec le petit dernier, une séance de gratouillage de dos avec le deuxième, un hug plus furtif mais dépositaire de toute la tendresse passée avec le plus grand. Alors vous allez me dire qu'un chaton peut peut-être offrir tel moment par de plaisir partagé. D'accord, je ne néglige pas la force du lien avec l'animal. Mais jamais un chaton, aussi mignon soit-il, ne vous fera fondre le cœur un jour en vous disant « Papa, je t'aime jusqu'à la lune et retour » ou « Maman, tes câlins, ils sont tellement bons que je pourrais manger ça toute ma vie ». Oui, à bien y réfléchir, avoir la chance de pouvoir élever des enfants, quand la vie, la nature nous l'ont permis, quand on l'a choisi, c'est avant tout avoir la possibilité de vivre ces moments d'intense bonheur. Alors c'est vrai, ces petits moments exquis se perdent parfois dans la jungle de notre quotidien, dans les labyrinthes de nos soucis, à tel point qu'on ne prend même plus forcément le temps de les vivre ou de les apprécier. On finit parfois par placer l'obligation de préparer un bon repas ou de coucher les enfants à l'heure, avant les joies simples d'un câlin ou d'une discussion existentielle au coin de l'oreiller. Et c'est justement ça qui nous fait parfois perdre le sens de cette folle aventure qu'est la parentalité, nous menaçant de surmenage ou de burn-out. Et lorsque les enfants ont grandi, quittent le nid, on se dit alors pourquoi j'en ai pas plus profité. Quelle est cette spirale qui m'a peut-être fait passer à côté de l'essentiel? Alors je propose une piste, un brin cucu, mais j'assume. Si cette année nous troquions une partie de nos contraintes quotidiennes contre quelques câlins supplémentaires, si au lieu de courir sans cesse, on s'offrait plutôt quelques séances de tendresse gratuite, histoire de remplir ce réservoir d'amour dont nous avons tous besoin pour jouer au mieux notre rôle.
Et vous pouvez podcaster et partager la chronique Ma vie de parent de Gomenel Boulay sur l'appli France Inter, et on peut vous contacter.
Mais oui, continuez à m'écrire, j'ai plein de super gentils mails. Gwenaël.boulay@radiofrance.com.
Boulay, B-O-U-L-E-T. Dans quelques instants, on vous donne d'autres conseils pour améliorer votre mémoire. En attendant, on écoute la femme qui interprète Nouvelle-Orléans. Interprété Nouvelle-Orléans.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h53 et ce matin des outils pratiques pour améliorer sa mémoire. Et nous recevons le docteur Catherine Lacronière. Bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin nutritionniste à Paris. Alors une question très simple. Est-ce qu'il existe des aliments qui favorisent vraiment la mémorisation? Que nous dit la littérature scientifique?
Alors il y a plutôt une manière de manger, en particulier quelque chose que vous connaissez bien, qui est le régime méditerranéen, qui serait l'alimentation à conseiller, finalement une alimentation équilibrée qui amène tous les nutriments et qui est juste à l'opposé de la junk food.
Dans la diète méditerranéenne, on retrouve...
Alors, il y a des vitamines. Alors, c'est vrai que pour la mémoire, il y a des choses très importantes, en particulier la vitamine, et l'une d'entre elles, la vitamine B1, qui rejoue un rôle pour préserver les fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, mais aussi le langage. Cette vitamine B1, on la trouve par exemple dans les céréales complètes, dans le germe de blé, dans les œufs. Mais il y a également la vitamine C, qui est antioxydante, comme une autre vitamine. La vitamine E, qu'on va trouver dans les huiles, par exemple. Et puis, il n'y a pas les vitamines, il y a des acides gras, en particulier les oméga-3. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ces oméga-3 parce que ça permet de permettre une meilleure fluidité des membranes, vous savez, ce qui entoure les cellules, en particulier les neurones. Et ces oméga 3, eh bien, on le sait, sont reliés à une limitation, bien sûr avec plein d'autres choses, mais du déficit cognitif lié à l'âge.
Sylvie Chocron.
Oui, effectivement, toutes les substances qui vont permettre d'être antioxydantes, hein, de freiner l'oxydation des neurones. Et on n'a pas cité le chocolat, mais le chocolat, visiblement noir, hein, attention, serait également bon pour la mémoire et les œufs aussi.
Pourquoi est-il important de faire du bien à son microbiote intestinal, Catherine Lacrenière? Pourquoi ça peut avoir une influence sur nos capacités cognitives et sur la mémoire en particulier?
On sait que l'intestin est le deuxième cerveau, entre guillemets, et qu'il y a des relations très étroites entre le système nerveux entérique, donc de l'intestin, qui lui-même dépend du bon état du microbiote, ce qu'on appelait avant la flore intestinale, et tout ça va permettre de mieux fonctionner. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses qui peuvent faire du mal, bien sûr, au microbiote. On parlait de la junk food, il n'y a pas que ça qui peut être délétère, hein, pour la mémoire après. Vous avez, alors pourquoi est-ce que la junk food ne marche pas pour avoir une bonne mémoire? C'est parce qu'elle vous donne pas le bon carburant au bon moment, et puis quand vous mangez de la junk food, il n'y a pas du tout de nutriments, donc il n'y a pas tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire ces antioxydants qui sont primordiaux, les polyphénols en particulier. On parlait du chocolat, mais je pourrais vous parler également, bien entendu, des fruits et des légumes avec des antioxydants comme par exemple la lutéine. On pensait que c'était très intéressant, on le pense toujours, hein, pour limiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc pour l'œil, mais on sait également aujourd'hui que c'est très important pour la mémoire. Donc mettons les antioxydants au programme sous forme de fruits, de légumes, de chocolat, de thé, et même pourquoi pas un petit peu de vin à partir du moment où c'est pas trop.
Et d'ailleurs l'alcool, c'est pas le meilleur ami quand même de la mémorisation. On l'a vu avec le sketch de Florence Foresti au tout début de l'émission. Hein.
Ah oui, c'est une catastrophe. Alors d'abord, ça touche la mémoire à court terme, et puis si on a vraiment une intoxication, entre guillemets, si on boit beaucoup trop, eh bien on va toucher la mémoire à long terme, et on peut aller même jusqu'à des déficits et des maladies qui sont tout à fait irréversibles.
Pour résumer, ce qui est bon pour la santé cardiovasculaire est bon pour notre cerveau. Un dernier conseil, Sylvie Chocron, on n'en a pas parlé, hélas, mais c'est quand même fondamental. Le sommeil.
Mais oui, vous avez raison. En fait, c'est pendant le sommeil que les souvenirs vont vraiment se consolider. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très grave d'empêcher quelqu'un de dormir. Alors, si on parle sommeil, il faut juste dire un mot sur les écrans. Donc, souvenez-vous que plus vous passez de temps sur les écrans et plus vos enfants passent de temps sur les écrans le soir, plus ils viennent déranger le métabolisme du sommeil à cause de la lumière bleue. Et moins ils dorment, moins ils arrivent à faire attention et à apprendre. Donc, c'est un cercle vicieux.
Et puis l'exercice physique.
Exactement, et l'exercice physique en irriguant le cerveau permet d'entretenir vraiment sa mémoire et ses fonctions cognitives. Donc il suffit pas d'entraîner sa mémoire avec des petits jeux. Il est important aussi de bouger, vraiment de faire du sport pour améliorer sa mémoire.
Il faut pas oublier que la mémoire est dans le corps et que fait partie du corps, et donc on peut pas séparer les choses finalement.
Merci beaucoup docteur Catherine Lacrenière. Merci Sylvie Chocron. Le titre de votre dernier livre?
Une journée dans le cerveau d'Anna aux éditions Erol.
Merci Anne de Pomereux. Je conseille Éloge de la passoire. C'est bourré de conseils. C'est publié chez Lattès. Et demain, comment devient-on raciste et antisémite? Pourquoi, par exemple, de plus en plus de Français sont séduits par les flûtes racistes? Pour nous éclairer, nous recevrons notamment la professeure en anthropologie génétique, Evelyne Ayer.